Quel sujet c'est? Faut-il toujours tendre l'autre joue? Je commence par quelques exemples. Imaginez que vous ayez une petite dispute avec quelqu'un de l'église et que cette personne commence à vous calomnier devant les autres. Que faire? L'ignorer? Lui répondre par des reproches? Comment réagir? Imaginez que vous soyez en train de traverser la rue à pied sur un passage piéton avec un feu vert. Qu'un automobiliste se mette à vous klaxonner en criant « Pousse-toi, idiot !» Comment répondre? Faut-il le laisser passer? Lui expliquer le code de la route? Rien dire? Imaginez que vous soyez en train de distribuer des flyers pour un culte de Noël organisé par notre église, quand soudain quelqu'un s'approche de vous et se met à vous insulter en vous disant que les chrétiens sont nuls et dangereux. La racine de tout mal dans la société, des homophobes, des intolérants, des idiots. Encore une fois, que faire? Rester dans le silence, sans répondre. Répondre, mais avec douceur. Lui rendre la monnaie de sa pièce. Comment répondre? Imaginez que vous rentriez chez vous un soir, que vous soupçonniez des cambrioleurs dans votre appartement. Quelle est la réponse chrétienne à cette situation? Faut-il les aider, les cambrioleurs, à remplir leur sac de vos affaires en tendant l'autre joue, c'est ça? Faut-il plutôt leur régler leur compte? Que faire? Imaginez que quelques racailles se mettent à embêter votre femme dans la rue. Encore une fois, que faire? La défendre? Les laisser faire? Que faire? Imaginez une autre situation. Imaginez que vous étiez parmi les chrétiens qui se trouvait dans le centre commercial au Kenya, il y a quelques semaines, quand il a été attaqué par des terroristes islamistes. Dans une telle situation, que faire? Mourir joyeusement, en sachant que la persécution fait partie de la vie chrétienne? Ou plutôt se défendre? Que faire? Alors je mentionne ces différents scénarios en sachant que vous en avez déjà vécu certains. D'autres ne présentent que rarement dans la vie. Il y en a d'autres encore qu'on n'imaginerait jamais vivre. Mais vous pouvez au moins imaginer comment vous réagirez dans certaines de ces situations. Pour d'autres, vous n'avez aucune idée de ce que vous devriez faire. Mais si vous êtes chrétien, vous connaissez très bien cette devise tirée de la Bible qui est souvent citée. Il faut tendre l'autre joue. Ça, c'est notre sujet pour aujourd'hui. Ce qui nous amène à poser cette question très pratique. Faut-il toujours tendre l'autre joue? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais faire trois choses. D'abord, on va lire Matthieu 5, versets 38 à 42. Ça, c'est notre texte qui parle de ce chose. Ensuite, on va s'intéresser à l'éclairage de l'Ancien Testament sur ce texte. C'est très important d'étudier le contexte là. Enfin, on va étudier le texte dans le contexte du Nouveau Testament. Tout ça nous permettra de mieux l'appliquer à notre contexte au XXIe siècle. Donc, je vais lire Matthieu 5, versets 38 à 42. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, la citation de Jésus que nous venons de lire se trouve dans le contexte du serment sur la montagne. Jésus, un juif, parle aux juifs de la loi juive, la loi mosaïque, la loi de Moïse. Rien de surprenant, mais ce n'est pas une coïncidence si Jésus se trouve sur une montagne pour parler au peuple. Au sujet de la loi, tout comme Moïse est descendu d'une montagne avec les tables de la loi. Donc il y a les parallèles là. Jésus se présente comme le nouveau Moïse dans ce texte. Il explique au peuple les vraies exigences de la loi. Jésus est un prophète plus grand que Moïse. On voit ça en Hébreux chapitre 3, qui nous dit que Jésus a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse. Il a expliqué la loi, mais il a accompli la loi aussi. Ensuite, dans son discours sur la loi, Jésus enseigne des choses nouvelles. Mais il le fait dans le contexte des lois qui sont déjà connues pour les gens à cette époque-là. Le texte dans Matthieu fait référence au livre d'Exode, de l'Exode, chapitre 21, versets 23 à 25. On va lire ça en quelques instants. Et à moins que nous arrivions à comprendre correctement les paroles de Moïse dans l'Exode, nous ne comprenons pas les paroles de Jésus dans Matthieu. Donc c'est très important ce contexte pour bien comprendre cette notion de tendre l'autre joue. Alors, Exode 21 est un passage qui est consacré aux lois sur les coups et les blessures. Je ne vais pas le lire en entier, mais ce texte explique quelles sont les conséquences prescrites par la loi au cas où quelqu'un se blesserait à la suite d'une dispute ou d'une agression. Et le texte dit ceci, je vais lire ces quelques versets. Exode 21, versets 23 à 25. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûleur pour brûleur, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. De notre point de vue, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que ces lois sont violentes et même un peu barbares. Mais en fait, il y a une logique dans ces lois. Ils sont censés garantir deux choses. Premièrement, elles garantissent que les offenses contre les êtres humains sont punies d'une manière juste. Et ça, c'était très important. Elles valorisent la vie en mettant l'accent sur la valeur et sur l'importance des créatures de Dieu. C'est pourquoi si on assassine quelqu'un, on est obligé de renoncer à sa propre vie. Parce qu'on a commis un crime contre un être qui porte l'image de Dieu. Mais deuxièmement, ce principe d'œil pour œil et dent pour dent garantit que la punition ne sera pas plus sévère que le crime. Ça, c'est important aussi. Par exemple, ce ne serait pas logique d'être lapidé pour une petite offense, vous voyez? De plus, il n'y a rien, à ma connaissance, qui puisse nous laisser penser qu'on est arraché des yeux des gens, vraiment, ou qu'on leur ait coupé des mains en guise de rétribution pour des accidents ou des crimes. Ça n'existait pas vraiment à cette époque-là. L'idée était plutôt de compenser la personne blessée d'une manière juste, c'est-à-dire de compenser pour le temps perdu ou pour l'argent perdu, etc. L'idée était de dissuader les gens de se battre et d'avoir recours à la violence. Dans une société où les gens vivaient de manière assez précaire, ça pouvait coûter cher de rembourser quelqu'un. Par exemple, imaginez que Alex et moi, nous décidions de boire un coup au Ninkasi juste à côté d'ici, qu'au bout d'un moment, on se met à se disputer sur une question théologique. Ça se passe souvent, en fait. Et la tension monte et la bagarre éclate, ça se passe aussi souvent. Pendant la bagarre, Alex perd une dent. Et je lui casse le bras. C'est normal aussi. Selon la loi Moïse, quelle devrait être ma punition, si on comprend bien ce texte? Malgré le fait que Suzanne demanderait la peine de mort, je comprends. La loi Moïse exigerait que je paye les frais de dentiste, par exemple. Et la dent en or qu'il devra mettre dans la bouche d'Alex. Des choses comme ça. Il faudrait aussi que je tape les notes des prédications d'Alex sur son ordinateur quand son bras sera dans un plâtre. Vous comprenez l'idée ici? Peut-être que je devrais aussi passer la tondeuse dans son jardin ou aider avec d'autres travaux pendant qu'il retrouve la santé. Mais ça, c'est vraiment l'idée. Aïe pour aïe, dent pour dent. Enfin, n'oubliez pas que ces lois existaient et étaient appliquées dans une société où l'Église et l'État étaient unis. Pour les Juifs, la vie civile, religieuse et morale était complètement unifiée. Les distinctions qu'on a aujourd'hui n'existaient pas. Il n'y avait pas de laïcité à cette époque-là. Et donc, il y avait beaucoup de recoupements entre les lois civiles, religieuses, morales, par exemple. C'est aussi un élément important de prendre en considération pour comprendre le contexte. Donc ça, c'est le contexte Ancien Testament. D'accord ? On passe au contexte Nouveau Testament. On revient au texte de Matthieu 5. Et là, on voit que Jésus fait référence à ces lois de l'Ancien Testament, mais il ajoute aussi des choses ici. Encore une fois, n'oubliez pas le contexte dans lequel Jésus s'exprime. Il a déjà dit en Matthieu 5, verset 17, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais pour les accomplir. Et donc le principe de ces lois demeure, mais le contexte dans lequel elles s'appliquent change. Jésus parle à ses disciples, il parle aux chrétiens. Jésus parle dans le contexte des béatitudes que l'on trouve au début du chapitre 5. Donc c'est dans ce contexte de Sermon sur la montagne. Et ici, Jésus accentue la paix, la douceur, la repentance, l'humilité. Il prépare les disciples à la réalité de la persécution, à la nécessité de briller comme une lumière dans un monde déchu. Et maintenant, Jésus exagère la loi, en quelque sorte. Il la pousse jusqu'au bout, afin de montrer les exigences de Dieu. Il dit que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus nous pointe vers la perfection de Dieu, la perfection que Dieu attend, vers son propre rôle qui consiste à accomplir cette perfection. Donc encore une fois, Jésus met l'accent sur le principe de la loi, ou pour le dire autrement, sur l'esprit de la loi. La mise en pratique de ces principes s'inscrit à ce moment-là dans un monde où les pratiques chrétiennes au 1er siècle n'étaient pas reconnues ni même vraiment régulées par l'État. Jésus ne nous incite pas ici à ignorer la loi civile du pays. Par contre, il nous invite à mettre l'accent dans notre vie sur la réconciliation et sur le rétablissement qui sont caractéristiques de son royaume et de la transformation des cœurs dans ce texte. Les offenses qui sont mentionnées au verset 39 à 42 doivent être comprises dans le contexte de la persécution à l'encontre des disciples de Jésus. D'accord ? Se faire frapper sur la joue, c'est une expression qui fait référence aux insultes, les insultes ordinaires de la vie, en fait, dirigées contre les disciples de Jésus. Ces insultes, on peut les ignorer ou y répondre sans être antagoniste. Et voilà ce que Jésus veut faire comprendre à ceux qui l'écoutent. Le fait de laisser quelqu'un prendre votre manteau, par exemple, est une incitation à coopérer le plus possible avec ceux qui vous menacent et à ne pas leur donner des raisons supplémentaires de vous persécuter. Donc c'est encore dans le contexte de persécution. De la même façon, quand une autorité vous oblige en tant que chrétien à coopérer dans un domaine particulier, faites-le afin de maintenir le bon témoignage chrétien, à condition bien sûr que cela ne contredise pas la loi morale de Dieu. Les chrétiens doivent être exemplaires pour ce qui concerne la paix et le respect des autorités. Si nous sommes sel de la terre et lumière du monde, nous devrions éviter de donner des raisons aux gens de nous mépriser. Les apôtres sont des bons exemples de ce comportement dans le livre des Actes. En fait, on voit des bons exemples là. En Actes chapitre 5, les apôtres obéissent à Dieu en annonçant l'évangile, mais ils ne résistent pas aux autorités en devenant violents, par exemple. Un peu plus tard, dans Actes 16, Paul et Silas sont mis en prison. Bien qu'ils ne résistent pas par la violence, ils utilisent des arguments. et les recours qu'ils ont en tant que citoyens pour régler leurs problèmes et réduire au silence leurs accusateurs. Donc ce texte insiste donc sur ces exigences de paix, de douceur, d'humilité, de respect et de réconciliation. Alors ça c'est le contexte. Pour répondre maintenant à la question de savoir s'il faut toujours tendre l'autre joue, d'abord une règle générale. Jésus accentue dans tout ce passage l'importance de la réconciliation de son peuple avec Dieu et les uns avec les autres pour qu'ils soient une lumière dans un monde de ténèbres. Ça c'est très important. Les règles générales pour le comportement du tout chrétien se trouvent dans les béatitudes qui constituent le fondement du reste de l'enseignement de Jésus dans le serment sur la montagne. Jésus veut donc un cœur contrit et repentant, qui reconnaît son propre péché, qui cherche la paix, la douceur et l'amour, mais aussi la justice. Ce comportement s'applique dans toutes les situations. En tant que chrétien, on ne cherche pas la bagarre, ni la dispute, qui ont pour but de blesser les gens. Vous voyez? Ensuite, Jésus parle aux disciples dans un contexte où la persécution était une réalité. Ils devaient vivre leur foi dans un monde païen, sous des gouvernements païens, pas dans un pays théocratique comme était Israël autrefois. Dans le contexte de Jésus et ses disciples, la rétribution et la justice n'étaient pas toujours possibles. Et le témoignage chrétien était plus important que la réparation des offenses ou la vengeance. Je dirais aussi que ce texte n'interdit pas, par exemple, la ridicule ou le satire dans nos réponses aux anéries du monde non plus. Ce texte n'interdit pas les actions légales, ni le fait de se défendre dans les situations ordinaires qui se présentent dans la vie civile. Dans des situations de persécution, le texte permet que nous nous appuyions sur les lois du pays qui nous protègent. Encore une fois, je vous renvoie vers le livre des Actes. Et cette fois au chapitre 22, versets 25 à 29. Mais dans ce passage, Paul se défend en se référant à la loi romaine. Mais il n'a pas recours à la violence. Il n'a pas cherché de se venger, vous voyez. Il a mentionné le fait qu'il était citoyen romain pour se protéger. Donc, je le répète, pour être clair, Matthieu 5, 39 a été écrit pour des chrétiens qui font face à la persécution. On a le droit de se défendre légalement, selon Acte 5, Acte 16, Acte 22. On a le droit d'argumenter pour sa défense. On peut lire par exemple 1 Pierre 3, versets 13 à 16, sur ce point-là, qui mentionne le fait de répondre avec douceur et amour, mais répondre à tous les arguments ou des questions des gens. Donc Matthieu 5 ne nous interdit pas de nous défendre physiquement dans des limites de la loi, dans des situations ordinaires de la vie civile. Mais par contre, Matthieu 5, 39 ne nous permet pas de chercher la vengeance, par exemple, ni d'avoir recours à la violence quand nous sommes ridiculisés ou persécutés pour la foi. Nous devons alors nous poser la question suivante. Qu'est-ce que je défends? Ma vie, mon orgueil ou le nom de Jésus? Alors, avant de conclure, je voudrais revenir aux exemples que j'ai mentionnés au début. Cette fois, on va essayer de répondre selon une théologie biblique, basé sur ce qu'on a étudié dans ce passage. Alors, vous disputez avec quelqu'un de l'Église qui, au bout d'un moment, commence à vous calomnier devant les autres. Devrez-vous tendre l'autre joue et dire « Tu m'as calomnié un peu, mais vas-y, fais-le encore plus. » Parce que ça, c'est l'idée de tendre l'autre joue. Pas du tout. Ce n'est pas une persécution, mais vous devrez appliquer l'esprit de la loi à Matthieu 5, 39, en évitant d'une part la vengeance et en pratiquant d'autre part la douceur. Et dans cette attitude, un texte comme Matthieu 18, 15 à 17, nous présente peut-être une meilleure réponse à ce genre de situation. Ce texte nous dit de répondre ou de résoudre le problème avec l'aide de l'Église et sous son autorité, et dans le but de réconciliation. Un autre exemple. Vous êtes en train de traverser la rue à pied, sur un passage piéton, avec le feu qui est vert, et un automobiliste vous klaxonne et vous hurle dessus pour que vous vous poussiez. Devrez-vous tendre l'autre joue et lui dire: vous m'avez hurlé dessus, mais je suis un bon chrétien, donc allez-y, remboursez-moi aussi. Est-ce que ça, c'est l'idée? Pas du tout. C'est une offense civile ordinaire. Expliquez-lui le code de la route avec douceur. Ou alors, ne dites rien. Ne cherchez pas la confrontation. Ça, c'est vraiment l'idée. Ne cherchez pas la confrontation. Posez-vous la question: qu'est-ce que je défends? Mon orgueil, ma vie ou le nom de Jésus? Vous êtes en train de distribuer des flyers pour le culte de Noël organisé par l'Église quand soudain quelqu'un s'approche de vous et se met à vous insulter et à dire que les chrétiens sont nuls et dangereux, la racine de tout mal dans la société, des homophobes, des intolérants, des idiots, etc. Devrez-vous tendre l'autre joue et dire: vous avez insulté ma foi, mais vous avez oublié de vous moquer de mon physique? Est-ce que ça c'est l'idée de tendre l'autre joue? C'est pas du tout l'idée ici. Mais c'est exactement la situation dont Jésus parle en Matthieu 5. C'est une persécution dans un sens. Laissez-le cracher son venin, mais en même temps, s'il est possible, n'hésite pas à répondre, mais avec douceur et amour, comme on lit en 1 Pierre 3. Vous rentrez chez vous, vous surprenez des cambrioleurs dans votre appartement. Devriez-vous tendre l'autre joue et leur dire: je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé, laissez-moi vous aider à remplir vos sacs de mes bijoux? Est-ce que ça, c'est l'idée de Matthieu 5? Pas cette fois. C'est une offense civile qui réclame une action de votre part, en fait. C'est votre devoir en tant que citoyen d'aider les autorités à arrêter ce qui menace la paix civile. C'est votre devoir de protéger votre famille. Mais encore une fois, votre but ne doit pas être la vengeance, comme j'ai dit tout à l'heure, ou la violence. Ça s'applique aussi à d'autres situations où votre famille pourrait être menacée. Un autre exemple. Vous étiez parmi les chrétiens dans le centre commercial au Kenya quand il était attaqué par des terroristes il y a quelques semaines. Devrez-vous tendre l'autre joue et leur dire « Vous avez tué ces chrétiens-là, venez me tuer aussi. Vous avez mis une balle dans ma jambe, mettez-en une dans mon bras aussi. » Parce que ça, c'est l'idée de tendre l'autre joue. C'est ridicule, ça. C'est ridicule. Et ce genre de situation est grave et c'est vraiment horrible. Je n'ai aucune réponse facile ou précise à vous présenter face à une violence comme celle-là. C'est vraiment grave. Mais je peux vous diriger encore vers les paroles de Christ dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Alors votre but ultime est d'honorer Christ par votre comportement, n'est-ce pas? J'ajoute en fait un dernier exemple, quelque chose que j'ai pensé récemment. Vous lisez dans une magazine un article qui suggère que Jésus n'est pas existé, ou peut-être c'était dans une conversation, quelque chose comme ça. Est-ce que le fait de tendre l'autre joue veut dire que vous devriez rester silent sur ce genre de choses? Encore une fois, je dirais non, selon ce qu'on a étudié. La Bible n'interdit pas la possibilité de répondre aux anéries avec le satire, par exemple, en ridiculisant même des arguments nuls. Mais on doit le faire, encore une fois, selon ce qu'on a vu en 1 Pierre 3, avec douceur, avec l'amour, pour pour la vérité, en fait. C'est ça le but. Si nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, notre réponse à chaque situation devrait avoir pour but la gloire de Dieu et l'honneur du nom de Jésus. Donc je vais arrêter là.